I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Thomas Rozek. J'ai eu la vague impression d'être de retour en 2008, l'espace d'un instant, il y a quelques semaines, alors qu'on arrivait au terme de la campagne des élections de mi-mandat, les midterms aux États-Unis, Barack Obama était partout, dans les meetings, auprès des candidats, poussant à fond pour le camp démocrate, comme si ce même camp ne parvenait pas à tourner la page de son passage à la Maison-Blanche. D'ailleurs, ont-ils tenté de la tourner, cette page? Et surtout, la nostalgie pour les années Obama a-t-elle lieu d'être? Est-ce qu'on ne le voit pas plus beau qu'il ne l'a vraiment été? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et pour explorer en profondeur toutes ces problématiques, il nous fallait un regard expert. Quelqu'un qui a scruté en long en large les années Obama, et notre choix s'est arrêté sur Elisabeth Fokker. Elle est docteur en civilisation américaine, elle enseigne à l'université Paris 1. Elle a notamment longuement travaillé sur la réforme de l'assurance maladie, un sujet décisif, on va le voir. Mais avant, j'ai demandé à notre invité si l'omniprésence d'Obama dans les dernières heures de la campagne n'était pas plus un frein qu'autre chose pour le camp démocrate.
La grande présence d'Obama dans ces élections de mi-mandat ne peut à elle seule expliquer la performance, on va dire, médiocre ou alors un petit peu
en dessous des attentes des démocrates
dans cette élection-là. Je pense que dans une certaine mesure, ça a aidé à la mobilisation d'une partie de l'électorat, notamment l'électorat noir, qui a, jusqu'à la fin de la présidence Obama, soutenu ce président beaucoup plus que d'autres groupes démographiques. Ouais. Du coup, je pense qu'on ne peut pas généraliser et dire que parce que Obama était extrêmement présent dans ce cycle électoral, sa présence à elle seule ne peut pas expliquer en fait les fortunes électorales du Parti démocrate lors de ces élections.
Mais est-ce que du coup sa présence a aidé les démocrates ou est-ce qu'il a eu un effet nul?
Je pense que c'est un petit peu difficile encore de dire que c'est monocausal ou que la présence d'Obama à elle seule peut expliquer soit la réussite des démocrates, soit leur difficulté lors de ces élections. Je pense que pour une partie de l'électorat démocrate, en revanche, cette présence est problématique, parce que le Parti démocrate semble aujourd'hui être un peu à la croisée des chemins. Donc quand on parle du Parti démocrate de manière globale, c'est un petit peu un faux sens, je dirais, parce que le Parti démocrate est divisé, il y a une fracture au sein du parti à l'heure actuelle. Que Obama représente d'une certaine manière, il représente une partie du Parti démocrate, il représente l'aile plus centriste, on va dire l'ancienne garde du Parti démocrate, que représente également Hillary Clinton. Hein. Et d'ailleurs, cette fracture au sein du Parti démocrate, elle a été matérialisée de manière très claire lors de l'élection présidentielle de 2016, en deux candidatures distinctes, à savoir la candidature de Hillary Clinton et la candidature de Bernie Sanders. Ouais. Et donc, on a cette partie, on va dire, centriste de l'électorat, et une autre partie de l'électorat démocrate qui se réclame plus volontiers du socialisme, donc Bernie Sanders ou d'autres candidats qui ont d'ailleurs remporté leur élection lors des élections de mi-mandat. Et il me semble que pour cet électorat-là, pour la frange, on va dire, plus à gauche de l'échiquier politique au sein du Parti démocrate, la présence d'Obama n'est pas forcément nécessaire et on a cette idée qu'Obama ne représente plus vraiment les aspirations de la nouvelle génération d'électeurs démocrates.
C'est toujours étonnant du point de vue européen de se dire qu'Obama ne représente pas la frange la plus progressiste des démocrates. Parce qu'on a j'ai l'impression qu'on a cette illusion, nous, observateurs assez extérieurs, n'étant pas concernés directement par la politique concrète américaine, cette illusion qu'il est au contraire un progressiste, qui fait partie qui porte l'espoir d'un progressisme très fort aux États-Unis. En fait, il y a une mécompréhension dès le début, quasiment dès l'origine, depuis son élection, de ce qu'il est vraiment politiquement.
Oui, je pense, et d'ailleurs, dès son élection, l'aile gauche du Parti démocrate s'était inquiétée de son élection en disant qu'il ne fallait pas se méprendre, qu'Obama n'était pas un très très grand progressiste, que c'était un candidat centriste qui était acquis d'une certaine manière à la cause du libéralisme, voire de l'ultralibéralisme d'une certaine manière, qui n'était pas opposé à l'État et aux impôts, mais qui n'était pas non plus opposé au capitalisme et n'en souhaitait pas la mort ni la fin. Donc effectivement, dès le départ, on a l'aile gauche du Parti démocrate qui s'est inquiétée aussi de sa formation intellectuelle, puisqu'il a été formé à l'Université de Chicago, qui est un peu le terreau en fait de toute l'idéologie néolibérale, Milton Friedman en particulier. Donc c'est y a un certain nombre de personnes qui sont inquiétées voilà, de la garde rapprochée d'Obama, qui étaient des ultralibéraux. De cette manière-là, Obama est plus proche de la mouvance centriste du Parti démocrate, comme Bill Clinton, qu'on appelle les nouveaux démocrates, qui émergent à partir des années 1990. Et donc il est beaucoup plus proche de cette frange-là que de la frange de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, et donc ce type de profil politique-là, ouais, clairement.
Mais d'où vient du coup notre mécompréhension de son identité politique? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est trompé dès le début? Est-ce que c'était la force symbolique de son élection qui a un peu éclipsé la réalité politique qu'il y avait derrière?
Il y a clairement un effet d'illusion qui a été très fort aussi au moment de son élection, où il a beaucoup mis l'accent aussi sur son histoire personnelle. Tout ça a été extrêmement mis en scène, donc c'est pas nouveau, c'est assez courant aux États-Unis.
Oui, le storytelling, c'est
assez central, effectivement. Mais cela étant dit, je pense que l'effet d'optique est aussi un effet d'optique général qui peut être élargi à l'institution présidentielle elle-même, où depuis la France, on a souvent tendance à imaginer que le président américain est extrêmement puissant, que ça reste un acteur politique absolument majeur dans le débat politique états-unien, mais malgré tout, c'est un individu, un homme politique qui reste très contraint au niveau de ses actions. Donc en fait, à la lecture...
Il est contraint par quoi? Il est contraint par le fonctionnement de la démocratie américaine?
Par le fonctionnement des institutions, exactement. C'est-à-dire que, typiquement sur les dossiers de politique intérieure, le président américain n'a pas beaucoup de pouvoir. Il a un pouvoir limité. Il a un pouvoir qui est vraiment très très lié à la relation qu'il entretient avec les élus du Congrès. C'est-à-dire qu'un président sans un Congrès qu'il soutient n'a quasiment aucun pouvoir. Et donc ça implique aussi d'avoir un parti qui a une certaine discipline au sein du Congrès, qui n'est pas du tout une tradition non plus politique aux États-Unis. La discipline de parti est assez rare, finalement, et c'est un peu l'épreuve qui attend les démocrates maintenant qu'ils ont réussi à reconquérir la Chambre des représentants. Pour revenir à l'institution présidentielle à proprement parler, on a un effet un peu de projection. On imagine que peut-être que c'est un effet de projection aussi, là, dans le cadre strictement français de la Ve République, où on dit voilà, donc il y a une équivalence, le président a et les mêmes pouvoirs et tout, ce qui n'est absolument pas le cas.
Est-ce que cette réalité, justement, des institutions américaines explique en partie l'échec d'Obama sur un certain nombre de dossiers? Échec que les démocrates pourraient lui reprocher, ou en tout cas qui pourrait rentrer dans une espèce de droit d'inventaire auquel les démocrates pourraient se livrer maintenant.
Ouais, je pense que la difficulté en fait avec ce type de constat, et ça a été très courant, beaucoup de démocrates, notamment l'aile gauche du Parti démocrate, a directement et individuellement reproché à Obama son manque d'ambition, son manque de volonté politique quasiment, et je pense que réduire toute l'action politique, a fortiori dans le contexte états-unien qui est... la séparation des pouvoirs ne se limite pas à la séparation des pouvoirs, c'est aussi une concurrence entre les pouvoirs. C'est vraiment mal comprendre le paysage politique états-unien. Et notamment le fait que Obama, pour tout un tas de raisons qui lui sont propres, donc c'est aussi une question de son identité politique, c'est quelqu'un qui croit au compromis, qui croit à la négociation, dans un cadre qui était celui de son élection, où la polarisation politique est extrêmement forte. C'était peut-être une espèce d'aspiration chimérique qu'il avait en arrivant au pouvoir, certainement. Il y a un autre facteur qui est qu'il a pris ses fonctions au milieu d'une marasme économique, le pire qui a touché...
La crise de 2008, les subprimes.
La crise des subprimes de 2008, qui a été la pire qu'a subi les États-Unis depuis, on va dire, 70 ans, à peu près. Et l'autre élément très important, à savoir que c'est le premier président africain-américain à prendre ses fonctions à la Maison-Blanche. Et c'est tous ces éléments-là, la crise financière de 2008, son identité politique et le fait qu'il soit le premier africain-américain à tenir ses fonctions, lui ont pas rendu la tâche facile, en sachant qu'il a proposé, son programme politique était extrêmement ambitieux, mais qu'il opérait dans un terrain qui reste dominé par les idéaux de l'ère Reagan. Donc c'est un terrain relativement inhospitalier, en fait, pour quelqu'un comme Obama.
Est-ce que les démocrates ont commencé, je parlais de droit d'inventaire, est-ce qu'ils ont commencé ce bilan critique des années Obama, peut-être pour tourner la page, commencer à tourner la page de cette présidence?
Oui. Bah, je pense qu'effectivement, si on regarde simplement l'élection présidentielle de 2016, la candidature de Bernie Sanders est un élément de critique très forte de la présidence Obama. Cette critique, elle a été manifeste pendant sa présidence, notamment au moment de l'émergence du mouvement Occupy Wall Street, en 2011, qui était une manière de dire que la réforme, parce que donc Obama avait proposé une réforme de Wall Street qui a été considérée comme insuffisante, ou en tout cas maigre du point de vue des démocrates les plus progressistes. Et donc le mouvement social Occupy Wall Street s'est fait le porte-parole du vrai visage du Parti démocrate, en tout cas d'une certaine frange du Parti démocrate. Du coup, le droit d'inventaire dont vous parlez, il a commencé à ce moment-là, il me semble. Et au moment aussi des négociations sur la réforme de l'assurance maladie, où toute la partie gauche du Parti démocrate s'est offusquée de dire que cette réforme était une compromission avec le secteur privé, les intérêts pharmaceutiques, que cette couverture maladie était très très loin en fait des aspirations progressistes. Donc le désamour, si on veut, ou en tout cas la division, elle est née très très tôt en fait, pendant la présidence de Barack Obama. Et elle s'est accentuée au moment des élections de 2016, des élections présidentielles de 2016, et on continue d'en voir les effets aujourd'hui de manière assez concrète.
Petite précision, car c'est important. Vu de l'étranger, on pourrait croire que dans le bilan des ratés d'Obama à la présidence, ce qui pèserait le plus lourd sur son camp après son passage à la Maison-Blanche, ce serait par exemple l'absence de fermeture de Guantanamo ou la politique étrangère, notamment la question syrienne sur laquelle il n'a pas brillé. Ce serait perdre de vue un sujet essentiel dans la vie publique et même la vie quotidienne américaine, la réforme de l'assurance maladie, source de bien des crispations. Mais ça, je laisse Elisabeth Fokker, notre invitée, vous l'expliquer.
L'albatros, je pense, numéro 1 pour le Parti démocrate, ça reste la réforme de l'assurance maladie, qui ne satisfait personne, qui est dysfonctionnelle à beaucoup d'égards. Donc ça, c'est un héritage qui est lourd à porter pour le Parti démocrate. Et je pense que le deuxième point très important aussi, qui reste compliqué, c'est effectivement l'augmentation des inégalités au sens large tout au long de cette présidence, qui sont liées aussi au fait que dès 2010, le Parti républicain reprend les rênes de la Chambre des représentants. Et donc cette cohabitation-là, si je puis me permettre, c'est pas exactement une cohabitation à la française, mais cette cohabitation-là, elle a rendu la tâche d'Obama extrêmement compliquée. Et il l'a obligé à faire des compromis sur des questions qui étaient à l'origine totalement exclues de l'horizon politique que lui avait promis à l'Amérique. Donc ça c'est effectivement un autre point très important. De pas simplement penser à ce qu'Obama a fait ou pas fait, il a fait dans un contexte extrêmement contraint, et aussi avec des forces républicaines qui étaient très fédérées contre un ennemi commun, qui était Obamacare d'une certaine manière, et tout ce que représentait Obama, et donc il a été extrêmement diabolisé. Donc ça c'est un point, il me semble, vraiment, vraiment important aussi à souligner. Négociation politique permanente, polarisation extrême qui rend la tâche le passage, si vous voulez, entre les promesses de campagne et la réalité pragmatique de l'exercice du pouvoir, elle est, dans le cas d'Obama, elle est forcément à son désavantage, c'est évident.
Est-ce que ça explique aussi qu'on, du coup, notre propension, je pense aux médias, là, pour le coup, à nous, la presse, à chercher absolument le nouvel Obama. Qui est le nouvel Obama? C'est un titre qu'on a vu
Il a déjà
répété,
été trouvé.
Partout et partout. Bah, ils en ont trouvé
Beto
plusieurs,
O'Rourke,
visiblement.
Ils ont dit, voilà, Beto O'Rourke, qui est le... Alors, j'ai lu le Kennedy texan et l'Obama blanc. Voilà, donc du coup, Obama, visiblement, sert aussi de précédent, d'une certaine manière, dans le panthéon démocrate, parce que ça, c'est quelque chose dont on n'était pas vraiment sûr, et quelle place va-t-il occuper dans le panthéon des grands présidents?
Dans l'histoire des présidents démocrates.
Et ça, du coup, c'est assez intéressant. L'Obama blanc, ça veut dire qu'Obama a gagné sa place.
Oui.
A gagné, oui, déjà, voilà, merci pour, pour cette analogie, mais surtout, ça veut dire que quelque part, il a gagné sa place au sein du panthéon des grands présidents, entre guillemets, démocrates. Ce qui est assez intéressant, si on commence à analyser l'héritage et la postérité, en fait, de la présidence Obama, visiblement, d'une certaine manière, il n'a pas été totalement exclu, en fait, par le Parti démocrate, en tout cas.
Mais ce qui est rare, par contre, ce qui est assez remarquable dans pour en revenir à cette campagne des midterms, c'est sa présence, justement. Moi, j'avais la sensation, mais peut-être c'est une erreur, je ne suis pas spécialiste de la question américaine, mais j'avais la sensation qu'un président, une fois sorti de la Maison-Blanche, une fois que ses deux mandats étaient faits, si tant est qu'il en fasse deux déjà, est sorti du jeu politique. N'avait plus, finalement, qu'une image de, à la limite, un peu extérieure, de sage, vers lequel on se tourne de temps en temps, ou de commentateurs un petit peu distants de la politique, mais ne mettez plus trop les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Ce qui n'est pas le cas d'Obama. Est-ce que c'est assez rare, finalement, ce genre d'attitude pour un ancien président?
La présence d'Obama dans ses midterms est je pense, vraiment inédite. C'est totalement nouveau. À l'échelle de l'évolution de l'institution présidentielle, c'est pas forcément surprenant, mais sa présence dans les midterms, et il a fait quand même un certain nombre de rallyes de campagne, il a été très très aussi présent aux côtés de candidats et tout ça, donc c'était... Et surtout, en fait, c'est les deux aspects, c'est la présence à la fois de Donald Trump, qui lui aussi a énormément fait, campagne pour son parti.
Ce qui n'est pas trop l'habitude non plus.
Ce qui n'est pas non plus...
L'usage.
Voilà, l'usage, et la présence d'Obama, qui est le prédécesseur direct de Trump, est aussi extrêmement étonnante. Donc c'est totalement vrai. À l'échelle, on va dire, des 50 dernières années, c'est rare, en fait, pour un président de faire campagne pour son parti, et a fortiori pour un président qui a déjà servi de mandat et qui, en général, joue un rôle d'éminence grise ou de soutien lointain, mais plutôt, effectivement, agit dans les coulisses ou dans l'ombre. Mais si je peux me permettre une petite perspective historique, ça montre, en fait, la manière dont l'institution présidentielle a évolué, en fait, au fil du temps. Et il y a 80 ans, donc en 1938, Roosevelt avait entrepris de purger le Parti démocrate de ses éléments les plus conservateurs. Parce qu'à l'époque, le Parti démocrate était aussi bicéphale, avec une frange très progressiste qui soutenait le New Deal et une frange qui était conservatrice, et par conservatrice, j'entends antisyndicale et ségrégationniste. Et à l'époque, Roosevelt, qui voulait faire avancer le New Deal, avait décidé de faire campagne pendant les midterms de 1938 aux côtés de candidats progressistes contre des candidats démocrates conservateurs. Ça n'a absolument pas marché. Le retour de bâton était extrêmement violent. Il a été accusé d'être un dictateur. Ou l'exécutif qui se mêle des questions législatives, c'était totalement...
inédit.
Les prescriptions à l'époque, pour une simple question de séparation des pouvoirs. La campagne de purge de 1938 a totalement échoué, c'est-à-dire que les candidats que Roosevelt a soutenus n'ont absolument pas remporté les élections. Et depuis ce temps-là, il était clair que le président ne devait pas faire campagne au moment des midterms. Et ça, ça a changé véritablement au moment de la présidence de George Bush Jr., George W. Bush, qui a beaucoup investi dans la vie du Parti républicain, qui a fait beaucoup campagne aussi au moment des élections de mi-mandat de 2002. Et petit à petit, c'est quelque chose qui est revenu. Et on est dans un système où, de plus en plus, le président endosse la figure de chef de parti. Alors, les États-Unis sont pas une... c'est pas un système politique parlementaire, donc c'est assez inédit, c'est assez étonnant. Et en général, le président est président et le représentant de la nation, dépositaire de l'intérêt général. Et il y avait des chefs de parti qui étaient les chefs de parti, Parti démocrate et républicain. Donc ça, c'est en train de changer aussi. C'est vraiment intéressant. Pour un institutionnaliste, en tout cas, c'est un point qui est assez intéressant. Et ce que fait Obama là va dans le sens justement de cette transformation de l'institution présidentielle, ce qui est d'autant plus frappant que pendant sa présidence, Obama n'a pas du tout joué ce rôle de chef de parti.
Oui.
Ce qui lui a été extrêmement reproché par les démocrates, notamment après le vote sur la loi Obamacare qui leur a coûté à beaucoup d'entre eux leur réélection. Et à ce moment-là, la Maison-Blanche a dit « Non, mais c'est pas le rôle du président de faire campagne pour les démocrates, débrouillez-vous. » Et ça, c'est quelque chose qui a aussi accentué la fracture au sein du parti. Voilà. Nous, on s'est investi sur cette loi qui était extrêmement controversée, qui n'avait pas reçu l'adhésion populaire. Et en gros, vous nous avez laissé tomber. Que fait le président ? Le président, et il y avait cette attente aussi, que le président joue ce rôle de chef de parti. Donc c'est assez... Et là, le fait qu'Obama soit très présent dans les midterms, ça a été extrêmement critiqué, hein, à la droite comme à la gauche de l'échiquier politique. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Tu ne peux plus être président, c'est fini, la Constitution ne te le permettra pas. Donc, pourquoi est-il là ? Et effectivement, bon, je pense que c'est principalement pour... Il y a une partie du Parti démocrate qui reste attachée à ses valeurs centristes. Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie centriste de l'électorat démocrate, une partie progressiste et une partie beaucoup plus conservatrice. Et ça, on a tendance à l'oublier aussi depuis la France. Au sein du Parti démocrate, on a ce qu'on appelle les « blue dogs », c'est-à-dire des conservateurs fiscaux, des démocrates qui sont contre l'IVG. Et donc ça, c'est un bloc qui est quand même pas négligeable, au sein du Congrès notamment. Et évidemment, Obama, de par sa position centriste, centre-gauche, on va dire, peut aussi, d'une certaine manière, courtiser une partie de cet électorat-là. Pas l'ensemble, parce qu'ils ont été relativement hostiles à sa présidence.
Oui, j'imagine. Quand même.
Mais c'était juste pour donner peut-être une image un petit peu plus complète de ce qu'est le Parti démocrate aujourd'hui. Les influences sont tellement... sont très, très variées, en fait.
Enfin, on notera que la présence d'Obama a surtout eu un effet négatif dans cette campagne des midterms, puisque les candidats qu'il a soutenus ont perdu. C'était peut-être donc son baroud d'honneur, même si de nombreuses voix appellent encore et toujours à une candidature de son épouse maintenant, Michelle Obama. Ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une certaine famille Clinton, pour laquelle ça ne s'est pas très bien fini par contre. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Think of your favorite one-hit wonder.
Or that overpriced toy your parents would never let you have.
Or that TV show that no one else remembers because it was canceled way too soon. Now what if we could fix it? I'm Francesca Ramsey.
And I'm DeLon Grant. And after 20 years of friendship, we are now hosting a new nostalgia podcast called Let Me Fix It.
Each episode, we'll dig into our favorite celebrities, shows, and brands of yesteryear, and then imagine what it would take to repackage them for relevance today.
Think of our show as an intervention, but with way less stakes.
So subscribe to Let Me Fix It wherever you get your favorite podcasts.